Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nynard Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1784 en réponse à une question posée par la revue Berlinische Monatschrift, « Qu'est-ce que les Lumières ?» est un bref essai philosophique et politique d'Emmanuel Kant. Le texte ne cherche pas à raconter le mouvement des Lumières comme une période historique. Il en propose plutôt une définition normative, centrée sur la capacité de chaque personne à employer son propre entendement. Kant nomme minorité la dépendance intellectuelle qui conduit un individu à laisser des autorités, des traditions ou des experts décider à sa place de ce qui doit être cru et pensé. Son propos associe donc une exigence personnelle de courage à des conditions publiques de liberté. La formule latine sapere aude condense cette orientation « il faut oser savoir et juger ». Kant examine également les obstacles sociaux à cette émancipation, le poids des habitudes et la lenteur du progrès collectif. Cette édition donne accès à un texte fondamental pour comprendre le sens philosophique de la raison critique, de la liberté de discussion et de l'autonomie intellectuelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la minorité désigne une dépendance intellectuelle plutôt qu'un âge, le point de départ de Kant et sa définition des Lumières comme sortie de la minorité. Ce mot ne renvoie pas au statut juridique de la personne trop jeune pour agir seule. Il qualifie une situation intellectuelle dans laquelle quelqu'un ne se sert pas de son entendement sans la direction d'autrui. Un livre, un responsable religieux, un médecin ou un supérieur peuvent alors devenir, par commodité, des guides auxquels on abandonne son jugement. Kant ne prétend pas que tout individu doive posséder seul toutes les connaissances nécessaires. Son enjeu est différent, ne pas renoncer par principe à examiner les raisons qui fondent une croyance ou une décision. La minorité est dite imputable à celui qui l'a subi lorsque son origine ne réside pas dans un manque de capacité, mais dans le manque de résolution et de courage. Cette thèse déplace la question des Lumières. Le problème principal ne serait pas seulement l'ignorance, que davantage d'informations suffiraient à corriger, mais l'habitude de la dépendance. Penser par soi-même exige donc un effort moral, autant qu'intellectuel. La distinction permet aussi de comprendre pourquoi un adulte instruit peut rester mineur au sens kantien, tandis qu'une personne socialement contrainte peut néanmoins exercer son jugement. L'autonomie ne se mesure ni au diplôme, ni à la position sociale, mais à la manière de répondre des raisons de ses convictions. Deuxièmement, Sapere aude fait du courage la condition de la raison autonome, la devise Sapere aude, empruntée à Horace, signifie chez Kant que le savoir suppose l'audace de faire usage de son propre entendement. Cette formule est souvent réduite à une célébration abstraite de la pensée individuelle. Dans le texte, elle vise plus précisément la peur et la paresse qui rendent la tutelle confortable. Il est plus simple de suivre une règle déjà établie, de déléguer son jugement à une autorité reconnue ou de reproduire une opinion familière que de soumettre ses raisons à examen. Kant observe que des tuteurs entretiennent volontiers cette passivité en présentant la pensée autonome comme dangereuse ou inaccessible. Cependant, il insiste également sur la participation des individus à leur propre dépendance une fois accoutumés à être guidés, ils peuvent redouter le risque de marcher seuls. Le courage demandé ne signifie donc pas l'obstination ni le rejet systématique des conseils. Il consiste à ne pas traiter une autorité comme un substitut définitif au jugement. Cette nuance protège le texte contre une lecture qui opposerait arbitrairement l'individu à toute forme de compétence ou d'institution. Chez Kant, devenir majeur consiste à vérifier, discuter et assumer les principes auxquels on se conforme. La raison autonome demeure ainsi une pratique exigeante, elle requiert de reconnaître ses préjugés, de supporter l'incertitude et de rendre ses jugements justifiables. Troisièmement, l'usage public de la raison rend possible un progrès commun. Kant soutient que la diffusion des Lumières exige avant tout la liberté de faire publiquement usage de sa raison. Cette liberté ne désigne pas uniquement le droit de former une opinion intime. Elle désigne la possibilité, pour une personne qui s'exprime en savant ou en citoyen, de soumettre publiquement ses arguments à la discussion. Une pensée réellement autonome ne se replie donc pas dans une indépendance silencieuse. Elle entre dans un espace où les raisons peuvent être contestées, corrigées et partagées. Cette dimension publique explique le caractère collectif des Lumières. Un individu peut commencer à s'affranchir de certains préjugés, mais les changements durables dépendent de la circulation des textes, de l'éducation et du débat. Kant relie ainsi l'autonomie personnelle à une condition institutionnelle précise la liberté de publication et de discussion. Son argument ne suppose pas que le public adopte instantanément des idées rationnelles. Au contraire, il souligne la lenteur de l'émancipation, car les préjugés se reproduisent et les personnes habituées à la tutelle peuvent la défendre elles-mêmes. Pourtant, quelques penseurs capables de parler librement peuvent contribuer à modifier progressivement les usages collectifs. Le texte donne ainsi une base philosophique à la liberté d'expression, celle-ci n'est pas un simple privilège individuel, mais un moyen par lequel une communauté apprend à examiner ses propres normes. Quatrièmement, la distinction entre usage public et usage privé évite une liberté sans règle. L'essai ne défend pas une liberté comprise comme permission de désobéir à toute obligation. Kant distingue l'usage public de la raison et son usage privé, distinction parfois déroutante pour un lecteur contemporain. L'usage privé concerne la fonction qu'une personne exerce dans un dispositif déterminé, par exemple comme agent chargé de remplir une tâche. Dans ce cadre, une certaine discipline peut être requise afin que les activités communes ne soient pas paralysées. L'usage public est celui de la même personne lorsqu'elle s'adresse au public en tant que penseur, afin d'examiner une règle, une doctrine ou une institution. Kant estime que cet usage doit être libre. La portée de cette distinction est de concilier deux exigences, l'ordre nécessaire à certaines actions coordonnées et la possibilité de critiquer publiquement les règles qui les organisent. Elle ne sacralise donc pas les institutions existantes. Elle affirme qu'une règle peut être suivie dans une fonction tout en étant discutée, réformée ou contestée par des arguments publiquement exposés. Cette architecture révèle la prudence politique de Kant et sa confiance dans la réforme par la raison. Les Lumières ne se confondent ni avec une révolte immédiate ni avec l'obéissance passive. Elles supposent des sujets capables de distinguer l'exécution provisoire d'une tâche et le droit durable de soumettre les normes à un examen rationnel. En dernier lieu, le progrès des Lumières reste lent, fragile et opposé aux préjugés. Kant refuse une vision naïve selon laquelle il suffirait de proclamer la liberté pour que chacun devienne aussitôt autonome. La sortie de la minorité est lente parce que les habitudes de dépendance façonnent autant les institutions que les individus. Les tuteurs peuvent profiter de leur position en décourageant l'examen critique, mais le public lui-même peut finir par conserver le joug auquel il a été habitué. Cette analyse donne un poids particulier au thème des préjugés. Un préjugé ne correspond pas seulement à une erreur isolée, il devient une manière installée de juger, sans vérifier, transmissible et difficile à déraciner. Kant avertit que ceux qui sèment de tels préjugés peuvent finalement en subir les effets. Le progrès vers les Lumières ne garantit donc pas une marche régulière de l'histoire. Il dépend de pratiques concrètes de discussion, de formation du jugement et de protection de la parole critique. En même temps, Kant conserve une perspective de perfectibilité, l'être humain possède la raison et peut apprendre à en faire un usage plus libre. Cette tension entre confiance et lucidité fait la force du texte. L'autonomie ne constitue pas un état définitivement acquis après une décision unique. Elle demande un entretien collectif continu, car la facilité, la peur et les discours d'autorité peuvent toujours réinstaller les formes ordinaires de la tutelle. En conclusion, qu'est-ce que les Lumières ? S'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent comprendre l'origine philosophique de notions au jour 8 centrales, telles que autonomie, pensée critique, liberté de parole et responsabilité civique. Sa brièveté le rend accessible aux étudiants comme aux lecteurs qui abordent Kant pour la première fois. Mais sa densité justifie aussi une lecture attentive par toute personne intéressée par la philosophie politique. Le bénéfice intellectuel principal consiste à mieux distinguer indépendance de jugement et simple refus de toute autorité. Kant ne demande pas de vivre sans règles, ni de rejeter les savoirs spécialisés. Il demande de ne pas abandonner le droit et le devoir d'examiner les raisons qui gouvernent nos croyances et nos institutions. Cette précision rend le texte particulièrement utile pour réfléchir aux habitudes informationnelles, aux préjugés et aux conditions d'un débat public fécond. Par rapport aux vastes histoires du mouvement des Lumières ou aux traités politiques plus systématiques, cet essai se distingue par sa concentration remarquable. En quelques pages, Kant articule une éthique du courage, une théorie de la discussion publique et une réflexion prudente sur le changement social. Il ne décrit pas seulement un idéal historique. Il formule un critère durable pour évaluer les situations où la facilité de suivre autrui remplace l'exercice personnel de la raison. Sa force tient à cette alliance entre exigence individuelle et portée collective. Si vous souhaitez soutenir Emmanuel Kant, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.